Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons encore une fois parler des Instagrammeuses. Mais je vous rassure, cette fois-ci, je ne vous couperai pas l'appétit en vous parlant de Dubaï et des bouffeuses de merde, les porta-potty, car j'en avais déjà parlé dans une vidéo précédente où j'expliquais comment ces femmes finançaient réellement leur train de vie à Dubaï, ainsi que les pratiques plutôt douteuses auxquelles elles ont recours. Pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, vous la trouverez en description de ce podcast. Pour revenir à notre sujet du jour, je souhaitais vous parler de l'étalage de narcissisme dont font preuve certaines Instagrammeuses qui n'hésitent pas à exploiter la guerre et la misère au profit de leur présence médiatique et afin d'obtenir leur dose quotidienne de narcissisme. Ce qui m'a inspiré ce podcast, c'est la prolifération de photos, de vidéos, essentiellement sur Instagram, sur TikTok, où l'on voit des jeunes femmes protester contre la guerre en Ukraine à coups de hashtags, de slogans, parfois des banderoles, des affiches, des t-shirts, afin d'exprimer leur soutien au peuple ukrainien. Une première lecture de ce phénomène pourrait nous conduire à le trouver plutôt naïf, plutôt authentique. On pourrait se dire finalement, c'est pas bien méchant, c'est des jeunes femmes qui utilisent leur notoriété médiatique pour défendre, pour soutenir le peuple ukrainien dans cette période difficile. Mais lorsqu'on regarde de plus près, lorsqu'on analyse un peu plus les détails, lorsqu'on observe ce qu'elles font un peu plus en profondeur, on réalise qu'on est plus dans une exploitation opportuniste de ce conflit que dans un réel soutien au peuple ukrainien. Un youtubeur américain avait fait une très bonne analyse du sujet, notamment en montrant comment derrière ce soutien se cache en réalité la volonté de se promouvoir, de se vendre, comment derrière ce soutien apparent se cache en réalité une démonstration extrêmement narcissique, extrêmement perverse, et une volonté de ces jeunes femmes de se vendre, de se montrer plus qu'autre chose. Parmi le type de démonstration que vous trouverez sur Internet, il y a par exemple cette make-up artiste avec le drapeau ukrainien dessiné sur la joue et des gouttes de sang sur le visage qui descendent jusqu'au cou, qui fait mine de pleurer, qui fait mine d'exprimer une certaine émotion face à ce conflit. On voit aussi une autre Instagrammeuse utiliser le hashtag Ukraine excessivement et d'ailleurs utiliser le hashtag de toutes les villes possibles et imaginables, hein, Kiev, Odessa, hashtag Lviv, hashtag USA, bien sûr. Et on verra aussi dans son texte de présentation, I need help, j'ai besoin d'aide. Mais ce qui m'a frappé, ce n'est pas les hashtags, ce n'est pas son appel à l'aide, mais c'est surtout sa tenue et sa dégaine. Être habillé en temps de guerre pour demander de l'aide comme une poufiasse, moi, c'est un truc qui me choque. Son espèce de jean serré, son t-shirt de taille en dessous de ce qu'il devrait être. Bah, tu te dis, mais pourquoi ? Est-ce que tu as besoin de te montrer comme ça ? Est-ce que tu as besoin de te montrer dans cet accoutrement pour faire un appel à l'aide ? J'imagine qu'elle est ukrainienne et qu'elle demande de l'aide sur les réseaux sociaux, de l'aide sous forme financière. Hein. J'imagine qu'elles ont toutes une cagnotte, une caisse à laquelle on peut contribuer. Mais on pourrait se demander, mais pourquoi ça passe par le corps? Pourquoi ça passe par la nudité? Pourquoi ces femmes ne sont pas capables de faire la même chose sans se mettre à moitié à poil? Y a-t-il une autre forme d'expression que la nudité, que le corps, que la sexualité pour arriver à demander de l'aide? Ou bien est-ce qu'on pourrait arriver à la conclusion que ces femmes-là ne savent rien faire d'autre que d'exposer leur corps, et si on faisait abstraction de leur jeunesse, de leur relative beauté et de leur corps, ben finalement personne ne les aiderait, personne ne leur viendrait à l'aide. Est-ce qu'une femme pas très jolie, un peu plus moche ou moins jolie, ou tout simplement plus pudique, obtiendrait le même niveau d'aide? Est-ce que les femmes palestiniennes ou les femmes syriennes qui ont tendance à être beaucoup plus pudiques recevraient le même type d'aide que ces femmes ukrainiennes qui se mettent à moitié à poil pour demander de l'aide? Bon, vous connaissez la réponse. Une femme couverte ou une femme pudique qui ferait la même chose ne recevrait pas beaucoup d'argent de tous les hommes bêta, de tous les hommes vagins qui bavent face à ce type de démonstration, on va dire. Et il est vrai qu'il ne faut pas toujours et constamment jeter la pierre à ces femmes, faut bien imaginer que si ces femmes existent ou si ce type de comportement existe, c'est que de l'autre côté de la barrière, il y a des armées d'hommes vagins, des armées de puceaux soumis qui acceptent ce genre de comportement et qui y contribuent. Si OnlyFans existe avec des milliers, des centaines de milliers de femmes qui se mettent à poil pour vendre leur contenu, c'est que de l'autre côté de la barrière, il y a des centaines de milliers d'hommes bêta, d'hommes vagins soumis qui contribuent à ces comportements, qui contribuent financièrement, qui contribuent par l'attention qu'ils donnent à ces femmes au développement de ce type de comportement. Donc il faut bien comprendre que c'est une partie qui se joue à deux. Hein. Il y a les Instagrammeuses d'un côté et il y a les armées d'hommes vagins, d'hommes bêta de l'autre qui entretiennent ces phénomènes. Et l'une des scènes qui m'a fait le plus rire, là j'étais sidéré, c'est un groupe de femmes arborant des affiches « No war in Ukraine »,« Pas de guerre en Ukraine »,« Stop à la guerre », etc. Sauf que elles sont habillées comme dans un défilé de mode. Elles sont habillées comme si c'était la Fashion Week, avec des dizaines de photographes à leurs pieds en train de prendre des photos dans toutes les poses possibles et imaginables. T'en as même une qui a une espèce de soutif en forme de coquillage ou un truc qui pourrait s'y apparenter. La scène est surréaliste. Les gonzesses sont limite en train de poser pour arrêter la guerre. Est-ce que t'imagines si je me mettais un coquillage sur la bite avec une banderole Stop War, avec une affiche Stop War? Comment vous pensez que le monde réagirait? C'est intéressant de faire ce parallèle parce que les hommes ne font pas ça. On se met pas des coquillages sur la bite ou sur le téton pour... pour manifester contre la guerre. On ne fait pas ce genre de choses. Les hommes, d'une façon générale, sont beaucoup plus pudiques. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'aide que proposent les hommes à l'Ukraine, ou lorsque c'est organisé par des hommes, l'aide humanitaire... Hein. Vous savez, j'ai deux lectures de ce conflit. J'ai la lecture géopolitique, où je comprends plutôt ce que fait la Russie. Je comprends parfaitement... la réponse de la Russie aux provocations de l'OTAN, ça c'est une chose, mais ça ne veut pas dire que je ne compatis pas au drame humanitaire. La bêtise des politiciens, la bêtise de Zelensky qui est allé provoquer la Russie, ce géant nucléaire à ses frontières, c'est une chose. Zelensky est un crétin et il est en partie responsable de cette guerre. Après, ce que vivent les gens au quotidien, ce que vivent les Ukrainiens au quotidien, ben ça, c'est un drame humanitaire et quel que soit notre penchant, qu'on soit pro-russe ou pro-ukrainien, on ne peut pas ignorer objectivement la question de la crise humanitaire. Et lorsqu'on voit comment les hommes organisent l'aide humanitaire, l'aide financière, eh bien c'est tout de suite plus organisé, plus structuré. Il y a de la collecte de fonds qui se fait avec plusieurs réseaux, au travers de plusieurs canaux. C'est plutôt décent, c'est correct. J'ai pas vu d'hommes se mettre des coquillages sur la bite avec des photographes qui les prennent en photo pour sensibiliser les gens à la crise en Ukraine. D'ailleurs, si vous vous intéressez au conflit de façon un peu plus politique, militaire, je vous invite à suivre la chaîne Stratpol de Xavier Moreau, qui est un Français, ancien militaire, vivant en Russie et marié à une Russe, on va dire qu'il a du goût, et qui est honnêtement sur, on va dire, toute la sphère YouTube francophone, celui qui en parle le mieux et celui qui comprend le mieux et qui maîtrise le mieux ce sujet. On ne va pas parler du conflit aujourd'hui, hein. Le sujet c'est les Instagrammeuses et leur traitement et leur couverture de cette guerre, mais si vous vous intéressez plus à la géopolitique, je vous invite à consulter la chaîne Stratpol, qui est honnêtement ce qui se fait de mieux sur l'internet francophone. Et pour revenir à notre sujet, on peut constater que internet a fait exploser le narcissisme des femmes de façon exponentielle. Quelque part, Internet et les réseaux sociaux, et surtout Facebook depuis son apparition, a été un outil qui a permis un développement exponentiel du narcissisme. Pourquoi ? Parce que l'audience est devenue illimitée. Avant, dans la vie réelle, avant Internet, avant les réseaux sociaux, le narcissique n'avait que sa petite poule de la vie réelle pour exprimer son narcissisme. Mais depuis Internet, eh bien, on n'est plus limité, ou le narcissique n'est plus limité aux amis, aux connaissances, aux collègues de travail, un cheptel de 20-30 personnes sur lesquelles il pouvait exercer son narcissisme. Quelque part, Internet a fait que le narcissisme aujourd'hui a des audiences de plusieurs milliers, de plusieurs centaines de milliers, parfois de millions de personnes qui le suivent au quotidien et sur lesquelles il peut exercer son narcissisme. Mais avant d'aller plus loin, il serait intéressant d'expliquer, mais qu'est-ce que le narcissisme ? Parce qu'on entend narcissisme par-ci, narcissisme par-là, pervers narcissique, mais qu'est-ce que le narcissisme ? Eh bien, le narcissisme vient du personnage grec Narcisse, qui tombe amoureux de sa propre image reflétée dans l'eau. Les narcissiques sont par extension des personnes qui s'aiment et qui s'admirent plus que de raison. Pour le résumer simplement, le trouble de la personnalité narcissique est caractérisé par un sentiment constant de supériorité, un besoin d'être admiré et un manque d'empathie. Et comment reconnaître le narcissique? Comment reconnaître les symptômes du narcissisme? Selon le DSM-5, le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, le trouble de la personnalité narcissique se manifeste par au moins 5 de ces symptômes qui apparaissent en général au début de l'âge adulte. Tout d'abord, le narcissique se caractérise par une survalorisation de ses capacités. Le narcissique pense que ses compétences et ses accomplissements sont extraordinaires. De ce fait, il doit être considéré comme supérieur aux autres. Ensuite vient l'impression d'être unique. Le narcissique se croit spécial et estime qu'il doit par conséquent ne communiquer qu'avec des personnes spéciales et haut placées. Il a un besoin constant et excessif d'être aimé et admiré. Il a aussi une obsession pour le pouvoir, le succès, la beauté. Le narcissique manque d'empathie. Il ne voit que lui et ne peut donc pas s'intéresser aux besoins et aux sentiments des autres. Le narcissique se caractérise par de l'arrogance et une attitude hautaine. Le narcissique a besoin de manipuler les autres pour arriver à ses fins. Il a le sentiment que les autres l'envient et le sentiment que tout lui est dû. Et on pourrait se poser la question, comment réagir face à une personnalité narcissique? Quelle est la meilleure attitude? Eh bien, la réponse est simple, le remettre ou la remettre à sa place. La meilleure façon de lutter contre le narcissique, c'est de briser l'image qu'il impose. Faut lui rentrer dans la gueule, faut lui dire simplement et clairement que c'est une merde, que c'est une sous-merde. Si vous voulez, le narcissique a une distorsion de la réalité. Il ne voit pas la réalité pour ce qu'elle est, mais il la voit en fonction de son propre prisme. Dans sa vie, dans sa tête, le narcissique est le plus beau, c'est le meilleur, il dénigre les autres, il écrase les autres. Mais le narcissique est aussi un fragile. Lorsqu'il est face à quelqu'un qui n'adhère pas à sa distorsion de la réalité, lorsqu'il est face à quelqu'un qui lui rentre dedans, le narcissique s'effondre. Le plus grand des narcissiques, lorsqu'il a une personne en face qui lui explique qu'elle ne se soumettra pas à ses désirs, est complètement désarmé parce que le seul pouvoir qu'il a réellement ou qu'elle a réellement est le pouvoir de la persuasion, le pouvoir de la manipulation. Mais lorsqu'on n'est pas réceptif à ce type de technique, eh bien, les pouvoirs du narcissique s'effondrent d'une façon générale. Et la meilleure attitude qu'on pourrait avoir face à un narcissique ou face à une personnalité narcissique, d'une façon générale, hein, qu'elle soit homme ou femme, eh bien, c'est de lui fermer le clapet, c'est de lui dire « mais ferme ta gueule, tu racontes de la merde, t'es une merde, arrête tes pseudo-techniques de manipulation, ça ne marche pas, ta distorsion de la réalité ne fonctionne pas, ou du moins elle ne fonctionne que sur toi. » Et si vous voulez, lorsque vous ramenez le narcissique dans votre monde, dans le monde réel, lorsque vous cassez son cadre virtuel, eh bien, il redescend assez vite sur terre, quelque part. Le narcissique est un fragile. Il faut savoir que le narcissisme est aussi une façon de se protéger. Lorsqu'on se répète constamment qu'on est le meilleur, qu'on est le plus beau, c'est surtout soi-même qu'on essaye de convaincre, plus que les autres. Lorsque t'es beau, ben laisse les autres dire que t'es beau. Lorsque t'es intelligent, laisse les autres dire que t'es intelligent. Si personne ne te dit que t'es beau, que t'es intelligent, que t'es intéressant, et que tu te répètes à toi-même du matin au soir « je suis le meilleur, je suis le plus beau, je suis le plus intelligent », c'est que quelque part, t'es pas vraiment convaincu que tu l'es. T'essayes de te convaincre et t'essayes de modifier la réalité, de modifier la vie telle qu'elle est réellement pour la plier à tes désirs. C'est un terme qu'on appelle en anglais « reality distortion », déformation de la réalité. Ça peut être quelque chose de puissant et d'intéressant dans le monde de l'innovation. Quelqu'un comme Steve Jobs, par exemple, utilisait constamment la « reality distortion », distorsion de la réalité, pour imposer ses idées au monde. Quelque part, la question de la tablette, par exemple, est un projet qui avait foiré. Toutes les tablettes avant celle d'Apple avaient foiré. Quoi. Microsoft avait tenté, d'autres entreprises avaient tenté. La tablette a toujours foiré. Lorsque Apple lance l'iPad, ça marche du feu de Dieu, alors que tout le monde sur le papier disait que c'est de la merde, on a essayé, les gens ne s'intéressent pas à ça, ils veulent ou un PC, un ordinateur portable ou un téléphone, mais la tablette c'est un truc mal branlé, c'est entre les deux. Mais Steve Jobs avait cette puissance, cette capacité à transformer la réalité pour créer un besoin qui n'existait pas, qui a fait la grandeur d'Apple. Mais là, on est vraiment dans l'ordre du génie. Steve Jobs, c'est pas un narcissique qui se prenait pour un génie, c'est un génie. Avec ses défauts, ses qualités, on peut l'aimer, on peut ne pas l'aimer, c'est une personnalité extrêmement difficile à vivre au quotidien, mais c'est le propre de tous les génies. Et il avait cette capacité à tordre, à modifier l'espace, à modeler la réalité, à faire plier la réalité pour satisfaire ses besoins. Mais le génie peut faire ça. Le génie a les moyens de distordre la réalité pour qu'elle se plie à sa volonté. Le narcissique n'a pas de talent, le narcissique n'a pas de génie. Le narcissique tente la distorsion de la réalité pour se vendre, pour se faire valoir, mais ça ne marche que sur une minorité de personnes, ça ne marche que sur des fragiles. Et en général, autour du narcissique, autour de la personnalité narcissique, il y a toujours un cheptel de fragiles, de soumis, qui eux-mêmes ont une forme de fragilité, de peur, de manque de confiance, qui fait qu'ils vont adhérer à la folie du narcissique. Le narcissique ne veut pas s'entourer de personnalités fortes. Pourquoi ? Parce que la personnalité forte va te fermer le clapet à chaque fois que tu vas déborder. Tu vas te prendre une tarte dans la gueule à chaque fois que tu vas commencer à faire ton petit délire. Donc, il faut bien comprendre que, encore une fois, il y a toujours deux personnes dans la partie. Il faut arrêter de parler où les personnes qui sont victimes d'une personnalité ou d'un pervers narcissique sont toujours en mode pleurniche. Je me suis fait avoir, je me suis fait dominer. Tu te fais dominer parce que tu as le caractère qui fait que tu seras dominé. Tu te fais dominer parce que tu as une personnalité qu'on peut dominer. L'influence, la manipulation ne fonctionne que sur les gens influençables et manipulables. Il est très 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 difficile qu'un narcissique arrive à piéger, à manipuler une personnalité forte. Toutes les personnes, sans exception, qui se sont faites avoir par une personnalité narcissique sont des personnes qui ont des fragilités à la base. Tous les rapports humains se font à deux. On parle trop souvent de bourreaux manipulateurs et de victimes, mais tous les rapports humains se font à deux. Si le bourreau existe, c'est que la personnalité fragile qui a accepté l'oppression du bourreau existe. Le bourreau ne peut pas exister face à une personnalité forte. Le fragile, les fragiles créent le microcosme nécessaire à la naissance du narcissique. Et pour revenir à ce qu'on disait, Internet et surtout Instagram ont contribué à accentuer la distorsion qu'a le narcissique de son image. Et la raison, bien sûr, c'est celle du nombre. Comme je l'avais expliqué, sans Internet, le narcissique a accès à un petit cheptel d'admirateurs sur lesquels il exerce son pouvoir, mais grâce à Internet, les gens qu'on peut toucher sont quasi illimités et sur une population de plusieurs millions de personnes, il y aura toujours suffisamment de fragiles pour que le narcissique arrive à se constituer un cheptel conséquent de followers, de suiveurs. J'ai toujours été impressionné de voir des personnalités comme Kim Kardashian, comme Paris Hilton, avoir 40, 50, 60. Certaines personnalités ont plus de 100 millions de followers sur Internet qui les suivent. Et on peut se demander pourquoi, tu vois. Tu suis Mick Jagger ou tu suis un groupe de rock, je comprends. T'écoutes de la musique et tu t'intéresses à ce qu'ils font. Mais tu suis Kim Kardashian ou Paris Hilton, je n'arrive pas à comprendre. Suivre un narcissique qui prend des photos de lui-même toute la journée pour te montrer une vie que tu n'auras jamais, c'est un délire qui m'a toujours échappé. Et pourtant, il y a des millions de personnes qui les suivent et même des gens qui s'énervent lorsque tu les critiques. J'avais une fois dit à une amie que je trouvais que Kim Kardashian était une merde intégrale, que je trouvais que c'était un peu le caniveau de l'humanité. Eh bien, elle s'est vexée. Elle s'est vexée, elle m'a dit, mais tu comprends pas, Kim Kardashian, c'est tout un truc, c'est du marketing, c'est de l'image, c'est une femme incroyable, elle a réussi à faire des choses que beaucoup de femmes rêveraient de faire. Je dis, mais je comprends pas, d'accord, je conçois tes fans, tu la suis sur Instagram, c'est très bien, mais ça ne changera pas le fait que moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas cette admiration pour une femme qui a un cul gigantesque, qui passe sa vie à se maquiller et à prendre des photos au bord de la piscine. Je ne comprends pas. Et j'en suis arrivé à la conclusion qu'il faut être quelque part fragile, il faut avoir quelque part des manques dans sa vie, des carences, des frustrations, pour être admiratif de la famille Kardashian. Peut-être que dans les écoles de marketing, ça peut être intéressant à étudier, effectivement, comment une poufiasse sans intérêt arrive à avoir des millions de gens qui la suivent au quotidien lorsqu'elle cuisine, lorsqu'elle va aux toilettes, lorsqu'elle prend sa douche, lorsqu'elle se bagarre avec sa sœur. C'est un peu ça les Kardashians, hein. Tu m'as insulté, je t'ai crié, tu m'as tiré les cheveux, tu t'es moqué de mon copain, c'est que ça. Et t'as des millions de gens qui regardent ça toute la journée. C'est un truc qui m'échappe, mais ça peut peut-être s'analyser très correctement et très logiquement du point de vue sociologique, du point de vue psychologique. Mais on ne me fera jamais croire qu'une personne qui suit les Kardashians au quotidien est psychologiquement équilibrée. Et si on avait dû créer une application narcissique, si on avait mis en place un cahier des charges pour créer une application narcissique, eh bien on aurait créé Instagram. Il n'y a rien de plus narcissique qu'Instagram. L'idée de prendre des photos de soi-même pour se constituer une armée de followers, une armée de suiveurs. Alors, je vais peut-être un peu nuancer mes propos. Instagram est un outil extrêmement puissant pour la promotion, pour le business, pour la communication, pour le marketing. C'est un outil extrêmement puissant. Mais on ne peut pas ignorer la couche qui sous-tend Instagram, qui est d'assouvir les pulsions narcissiques de beaucoup de gens. Des gens qui ne sont rien dans la vie réelle, qui n'ont aucune éducation, qui n'ont aucune compétence, qui n'ont jamais rien fait de leur vie, grâce à cette application, deviennent des stars. Instagram, quelque part, réalise la prophétie d'Andy Warhol qu'il avait prononcée en 1968. Il avait dit « À l'avenir, chacun aura droit à 15 minutes de célébrité mondiale. » Eh bien, on y est, grâce à cet outil, toute personne sur Terre a aujourd'hui la possibilité d'avoir ces 15 minutes de célébrité sans compétences particulières, sans avoir quelque chose de plus qui fait qu'on a envie de le suivre ou de l'écouter de le rencontrer ou de lui parler, enfin peu importe, sans avoir aucune compétence. Quelle est la compétence de Paris Hilton ? Écrivez-moi sur un bout de papier, en une seule ligne, quelle est la compétence de Paris Hilton ? C'est un défi que je vous lance. Je vous préviens, vous allez mettre du temps à trouver. Et pourtant, tout le monde la connaît. Et c'est vraiment une particularité de notre monde, c'est que par le passé, il fallait avoir une forme de compétence pour être célèbre. La célébrité passait par le talent. Les Beatles, les Rolling Stones étaient célèbres, étaient admirés parce qu'ils savaient jouer de la musique. Aujourd'hui, pour être célèbre, tu n'as plus besoin de savoir jouer de la musique. Tu peux ne savoir absolument rien faire et devenir célèbre. C'est une vraie particularité de notre monde. Et je pense que notre monde a largement dépassé aujourd'hui la prophétie d'Andy Warhol. Et toujours dans cette histoire du narcissisme appliqué au conflit ukrainien, je vais vous passer un petit extrait d'une actrice qui s'appelle Annaline McCord, qui avait fait une espèce de pamphlet sur Internet. Elle avait fait une vidéo où elle s'adressait directement à Poutine pour lui demander d'arrêter la guerre. Une espèce de démonstration pathétique. Je me demande si elle croit elle-même à ce qu'elle raconte. Et surtout, on remarque qu'elle lit. Elle lit un script pendant qu'elle parle. On voit très bien ses yeux suivre l'écran. Et qu'est-ce qu'elle dit dans cette vidéo ? Elle dit « Cher Vladimir Poutine, je suis tellement désolé de ne pas avoir été ta mère. Si j'avais été ta mère, je t'aurais tellement aimé. »
Dear President Vladimir Putin, I'm so sorry that I was not your mother. If I was your mother, you would have been so loved, held in the arms of joyous light. Never would the story's plight, the world unfurled before our eyes, a pure demise of nations sitting peaceful under a night sky. If I was your mother, the world would have been warm, so much laughter and joy, and nothing would harm.
Et elle continue en disant « Le monde serait chaleureux, plein de rire, etc. etc. » Et pour finir, elle s'attaque à l'enfance difficile de Vladimir Poutine. Enfance qui serait apparemment à l'origine de cette guerre.
« I can't imagine the stain, the soul-stealing pain that the little boy you must have seen and believed and the formulation of thought quickly taught that you lived in a cruel, unjust world. » Is this why you now decide no one will get the best of you?
Vous me faites rire. Merci. C'est bon de rire après une dure journée de travail. Je vais rentrer chez moi de bonne humeur. Pourquoi sommes-nous inquiets?
Pourquoi cela nous вызывает озабоченность?
Ces radars et ces systèmes de défense couvrent notre territoire jusqu'en Oural. Ils neutralisent une partie de nos armes nucléaires terrestres qui sont la base de notre potentiel de défense. Tous les experts le savent. Ensuite, on vient nous dire... Ne vous en faites pas. Nous n'utiliserons pas ce dispositif contre vous. Nous, on est les gentils, on est honnêtes. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est pour ça que j'ai rigolé.
Bon, tout d'abord, on avait dit pas les mères. Pas les mères, pourquoi parler de la mère de Poutine? Qu'est-ce que sa mère a à faire là-dedans? Et surtout, je pense que la mère de Poutine aurait été extrêmement fière de voir ce qu'il est devenu. Son fils est devenu le tsar de Russie, le petit gamin qui se bagarrait dans la rue à Saint-Pétersbourg, est tout simplement devenu le grand tsar de Russie qui a remis son pays sur les rails. Donc l'histoire de la mère de Poutine, si j'avais été ta mère, mon cul sur la commode, je pense que sa mère serait extrêmement fière de lui. Poutine est devenu l'incarnation de l'homme viril, de l'homme sage, de l'homme serein, du leader, de l'homme supérieur sur Terre. On a beau le critiquer, il est méchant, c'est un fou, il a fait ci, il a fait ça. Pour l'instant, moi, ce que je constate, c'est que tout le monde ferme sa gueule. Il y a des gens qui avaient commencé à s'agiter au début, les États-Unis, la France, machin, l'Allemagne, c'est pas bien, c'est machin, on va te rentrer dans la gueule, on va faire la guerre. À un moment, il s'était un peu agacé et il a parlé de nucléaire. À un moment, ce qui a vraiment calmé tout le monde, c'est quand Poutine a dit qu'il considère que l'Ukraine était devenue un danger existentiel pour la Russie. Et ça, c'est extrêmement lourd, ou les phrases qu'il a prononcées sont extrêmement lourdes de sens, parce qu'un danger existentiel pour la Russie veut dire que la Russie est aujourd'hui prête à entrer en guerre nucléaire pour exécuter son plan. Une fois que tu as considéré qu'il s'agissait d'une menace existentielle pour ton pays, l'usage de l'arme nucléaire devient tout à fait possible et justifié. Et ça, ça a calmé tout le monde. Ça a calmé tout le monde, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'escalade du conflit. C'est pour ça que les États-Unis ne sont pas entrés en confrontation directe avec la Russie. Pour le moment, ils envoient des armes, mais personne n'a passé le cap de la belligérance parce que tout le monde a compris que la Russie ne lâcherait rien et que l'étape d'après, si l'OTAN devient belligérant, c'est la guerre nucléaire généralisée. Et donc, dans cette petite démonstration de cette jeune femme qui parle à Poutine comme s'il allait l'écouter. Tu vois, t'imagines Poutine, genre le matin, il va sur YouTube et regarde ce que la blondasse avait à raconter. Le mec, il en a rien à branler. C'est deux tartes dans ta gueule, file dans ta chambre. Une gonzesse qui ne comprend rien au conflit, la géopolitique expliquée par une blonde qui, en plus, fait mine d'insulter sa mère qui l'aurait mal éduquée. C'est de l'indécence, de la médiocrité, de l'incompétence, enfin, on pourra utiliser tous les superlatifs. Mais c'est ce qu'a apporté Internet, quoi. Internet a fait que n'importe quel grognasse peut aujourd'hui parler de géopolitique et insulter la mère de Poutine, comme ça. Et vous comprendrez que ce à quoi on assiste, c'est surtout à une actrice en mal d'attention qui cherche peut-être un nouveau rôle, hein, c'est peut-être aussi une actrice au chômage, un peu comme Charlotte Gainsbourg, vous savez, qui avait déclaré à la presse « J'ai découvert que mes origines juives russes sont ukrainiennes ». Voilà, vous savez, on sait que les Gainsbourg sont russes depuis des générations, et là, t'as Charlotte qui exploite le conflit parce qu'elle a besoin d'un petit rôle, parce que les finances sont difficiles, je sais pas, elle doit refaire la couverture de sa maison à la campagne, ou elle doit faire quelques réparations dans son loft parisien. Il n'y a pas trop de rôle avec le Covid, c'est un peu la misère, c'est un peu la dèche pendant 2 ans, il n'y a pas eu trop de rôles, de films disponibles. Et elle est obligée, pour gratter son petit billet, de profiter de la guerre, d'exploiter la misère, comme toutes les Instagrammeuses. Et elle nous fait une sortie. « J'ai découvert que mes origines juives russes sont ukrainiennes. » Charlotte. Charlotte, t'as pas honte? Après la sodomie en direct dans Nymphomaniac, le film de Lars von Trier, tu renies tes origines maintenant? Ça suffisait pas de te faire sodomiser en direct dans un film qui est considéré être tout public, faut maintenant que tu renies tes origines. Pour la petite histoire, dans Nymphomaniac, c'était vraiment Charlotte Gainsbourg. Hein. Moi, au début, je pensais que c'était une doublure. J'ai regardé ce film par curiosité, bien sûr. Cinématographiquement, c'est pas un chef-d'œuvre. Ça se regarde, il y a des passages intéressants, mais c'est pas, voilà quoi, c'est pas le film du siècle. Et je me suis dit, elle a au moins eu la décence de prendre une doublure pour jouer cette scène de sodomie. Non, non, elle a dit non, c'est moi. Non, c'est moi, je la veux dans le cul, c'est... Faut aller au bout, quoi. Un peu comme Tom Cruise qui fait ses propres cascades, elle a dit, moi aussi, je veux ma propre cascade. Elle a dit, non, non, moi aussi, je veux ma cascade. Moi, tu me la mets, je passe à l'écran, il n'y a pas de problème. Et pour conclure, je vous ai trouvé une petite pépite. Vous savez, j'ai un peu fouillé, je pensais que j'étais tombé dans le caniveau. Je croyais que j'avais tout trouvé, quoi, avec la blondasse qui insulte Poutine, avec Charlotte Gainsbourg qui explique qu'en fait, elle n'est pas russe, elle est ukrainienne, avec les tiktokeuses instagrammeuses en mode fashion week pour soutenir l'Ukraine, etc. Je me suis dit, c'est bon, j'ai fouillé dans les poubelles, j'ai fait les caniveaux, j'ai raclé les fonds, il reste plus rien. Eh ben non, j'ai trouvé encore autre chose. Si tu veux, Instagram, quand tu penses que t'es au fond, eh bien, continue à creuser, c'est pas fini. Et je tombe sur le profil de cette gonzesse qui s'appelle Kamala, enfin c'est un pseudonyme, Kamala, qui explique qu'en soutien à l'Ukraine, son contenu sera 50% moins cher, son contenu sur OnlyFans, bien sûr, son contenu d'éclatage de cul face caméra. Elle dit, dans le but d'aider les gens en hashtag Ukraine pendant hashtag l'invasion, je vends mon contenu en OnlyFans, hashtag mon cul, à 50% de réduction pour tout le monde en Ukraine. Genre les mecs en Ukraine sous les bombardements, le premier truc qu'ils vont penser à faire, c'est un abonnement en OnlyFans. Tu comprends qu'on est dans le foutage de gueule intergalactique. Ces gonzesses se foutent de la gueule du monde. Mais encore une fois, est-ce qu'elles n'ont pas raison de le faire? Si tu veux, quand tu regardes l'état de certains hommes, quand tu regardes tous ces hommes vagins, ces larves, tu te dis, finalement, est-ce que les gonzesses, face à autant, face à peu de masculinité, face à peu de virilité, n'ont pas raison de se comporter comme ça? Parce que ce qu'il faut comprendre, les mecs, d'accord, je critique Instagram, je critique OnlyFans, mais si OnlyFans existe, c'est parce qu'il y a des mecs qui payent des abonnements OnlyFans. Si OnlyFans existe, c'est qu'il y a des mecs qui peuvent avoir du porno gratos. Hein. Il n'y a rien de plus gratuit que le porno aujourd'hui. Hein. D'ailleurs, il y a une vraie crise chez les acteurs, chez les actrices, parce qu'il y a tellement d'amateurs qui font du porno gratuit que c'est fini. Hein. Les salaires dans le porno se sont effondrés. Si t'as pas fait du porno dans les années 80, 90 ou dans les années 2000, oublie, le porno aujourd'hui c'est fini. Je pense qu'aujourd'hui les gonzesses qui font du porno font un peu d'une pierre deux coups, quoi. Elles assouvissent leur pulsion nymphomane et elles gagnent un peu d'argent au passage. Mais c'est fini, hein. Les salaires que touchaient à l'époque Clara Morgan, Katsumi, les anciennes stars du porno, aujourd'hui c'est terminé. Il y a même des stars du X qui proposent leurs services pour 300 euros. Aujourd'hui avec 300 euros, tu peux avoir une star du X qui vient chez toi pour l'après-midi. Donc, lorsque tu vois toute cette pornographie gratuite et des mecs qui vont quand même payer un OnlyFans pour voir le même cul qu'ils ont vu gratos, tu te dis, il y a un truc qui va pas. Vous êtes fous, les mecs. Il y a un truc qui a pété, qui a lâché dans votre cerveau. Il y a un câble qui marche plus. Il y a un fusible qui a sauté. Il y a les fils qui se touchent pas. Il y a un truc qui va pas. Et dans la psychologie, dans les fans, ce que recherchent les hommes, c'est le contact intime. Ils ont le sentiment que si ils accèdent à ce OnlyFans, ils pourront avoir de l'affection un peu sur commande, un peu plus. J'avais même vu, c'était sur Reddit, je crois, un post qui racontait l'histoire de ce mec qui avait dit à une femme sur OnlyFans, « Ce mois-ci, je ne peux pas t'envoyer de l'argent parce que je dois payer mon loyer, mais le mois prochain, promis, je t'envoie du fric. » Le mec était en complète dépendance émotionnelle. Il était à deux doigts de ne pas payer son loyer, tu vois. Il s'excusait de ne pas avoir envoyé d'argent à cette gonzesse parce qu'il devait payer son loyer ce mois-ci. Est-ce que tu imagines dans quel état de misère sexuelle, de misère émotionnelle sont certains hommes ? Excuse-moi, je ne t'ai pas envoyé d'argent ce mois-ci, je dois payer mon loyer. Le mec ne la connaît pas. Il ne l'a jamais vu. Le seul contact qu'il a avec elle, c'est des photos à poil sur OnlyFans. Il ne la connaît pas et il lui envoie des centaines, des milliers de dollars tous les mois. Et lorsqu'il ne peut pas payer, il s'excuse. Il est carpette, il est par terre. Il s'excuse. Désolé, chérie. Ce mois-ci, je peux pas. Je dois payer mon loyer. Et bien sûr, avec OnlyFans, des milliers de gonzesses ont profité de la brèche guerre en Ukraine pour promouvoir leur contenu, pour faire des accès moins chers, pour proposer de donner une partie de leurs revenus pour la guerre en Ukraine. Mais tout ça, ce n'est que de la recherche d'attention. Elles s'en branlent de la guerre. Toutes ces femmes s'en foutent de la guerre. Les femmes, d'une façon générale, s'en foutent de la guerre. D'ailleurs, toutes les femmes ont quitté l'Ukraine. La majorité des femmes qui pouvaient partir sont parties. Les hommes, jusqu'à 60 ans, ont eu interdiction de quitter l'Ukraine. On nous bassine avec les rapports hommes-femmes, l'égalité hommes-femmes. Dès que tu as un conflit dans le monde, tous les hommes sont obligés de rester et se battre, interdiction de quitter le territoire, même pendant la Deuxième Guerre mondiale, on n'a pas eu ça en France. Quand les Allemands ont débarqué, les Français qui voulaient se sauver se sont sauvés, et bon, il n'y a pas eu, personne ne les a arrêtés aux frontières, celui qui ne voulait pas faire la guerre est se cassé, d'ailleurs beaucoup l'ont fait, n'ont pas fait la guerre, et là, pas de jugement, chacun fait ce qu'il veut, si tu n'as pas envie de mourir, je le conçois parfaitement. Alors qu'en Ukraine, ils n'ont pas eu le choix. Même si t'as pas envie, même si t'as 59 ans, que t'as envie de te barrer, tu peux pas. Les mecs t'arrêtent aux frontières. Alors que les femmes, les enfants peuvent partir. Et maintenant, on va essayer de parler un peu de psychologie évolutionniste parce qu'on pourrait se demander, mais pourquoi ça fonctionne ? Pourquoi ces applications comme Instagram, comme TikTok, basées sur la recherche d'attention, fonctionnent ? Eh bien, parce que la recherche d'attention est profondément ancré dans la psychologie féminine. Vous savez, la psychologie évolutionniste, c'est une psychologie qui tente d'expliquer tous les comportements humains au travers du prisme de l'évolution. Et quelque part, ça nous explique que tout est quasiment ou presque génétiquement déterminé. Notre intelligence est génétiquement déterminée et c'est une réalité. On ne peut pas augmenter son quotient intellectuel qui est complètement transmis génétiquement, qui est hérité génétiquement. On peut se cultiver, on peut améliorer son niveau de compétence, on peut améliorer son niveau de connaissance, mais on ne peut pas améliorer son quotient intellectuel. Si tu as un QI de 85, tu ne peux pas passer à 110, par exemple. C'est hérité génétiquement et c'est une preuve, hein. On ne va pas revenir là-dessus. Ça ne veut rien dire, hein. Il y a des gens qui ont 150 de quotient intellectuel et qui finissent par se suicider parce que trop d'intelligence, trop de compréhension du monde, le cerveau qui gamberge beaucoup. L'intelligence excessive n'a jamais été un gage de bonheur. Donc je ne fais pas partie de ceux qui raisonnent excessivement en termes de quotient intellectuel. Effectivement, quand tu as un QI élevé, tu as une intelligence pure qui est extrêmement élevée, t'éclates tout le monde en mathématiques, t'éclates tout le monde en logique, mais si tu ne fais pas utilisation de cette intelligence, elle ne te sert à rien. Si t'es par exemple pâtissier et que t'as un quotient intellectuel de 150, ou si t'es plombier, ça arrive, hein, y a des gens qui ne découvrent pas leur intelligence. T'as plein de gens qui font de l'artisanat, des boulots qui ne nécessitent pas forcément une capacité extraordinaire de calcul et de réflexion, qui ont un quotient intellectuel extrêmement élevé. Mais simplement, la voie universitaire ne les a jamais intéressés. Il y a des gens qui préfèrent travailler en extérieur, qui préfèrent travailler la matière, je le conçois parfaitement, et qui sont extrêmement intelligents sans nécessairement utiliser ça au quotidien dans leur métier. J'avais vu justement une émission qui en parlait des très hauts quotients intellectuels qui n'ont jamais découvert leur intelligence, qui étaient extrêmement intelligents mais qui faisaient des boulots du quotidien et qui n'avaient pas l'air de le regretter. C'est vrai que si tu as envie de bosser en extérieur, on va te proposer de faire un doctorat en mathématiques et tu vas dire non parce que ça te branche pas, ça te fait chier, ça t'ennuie. Même si tu arrives à régler des problèmes mathématiques beaucoup plus vite que ceux qui ont eu la médaille Fields, quoi. Et l'un des films qui en parle le mieux, c'est Good Will Hunting, qui parle justement de ce technicien de surface, pour utiliser un mot à la mode, un homme qui faisait le ménage, quoi, dans les universités américaines, qui avait un quotient intellectuel extrêmement élevé et qui a été découvert par un prof de mathématiques. Ça parle justement de ça, de ces gens extrêmement intelligents, mais qui ne sont pas intéressés par les cursus universitaires, que ça fait chier et qui préfèrent travailler à l'extérieur sur des chantiers. Mais quoi que l'on pense du quotient intellectuel, il est génétique et on hérite ce qu'on hérite, quoi. C'est comme ça. La génétique est une loterie. On n'est pas tous gâtés de la même façon, on n'est pas tous servis de la même façon. Certains gagnent à cette loterie génétique, certains sont moins avantagés, mais c'est comme ça, c'est la vie. Notre tolérance au stress est aussi génétique. La capacité à réagir, à résister au stress est génétique. La dépression, dans une certaine mesure, est transmise de manière génétique, de façon génétique. C'est pour ça d'ailleurs que la question de la psychothérapie a souvent été cantonnée à la région Autriche, Allemagne, Suisse. Pourquoi ? Parce que c'est des peuples qui ont ce genre de problème. Freud est autrichien, Carl Jung est suisse, et on pourrait se demander pourquoi la psychanalyse ne s'est pas développée en Chine, en Inde, en Afrique, dans les cultures d'Amérique latine. Pourquoi ça ne s'est pas développé dans ces pays-là? Et le seul pays d'Amérique latine où ça s'est développé, eh bien, c'est l'Argentine. Pourquoi? Parce que l'Argentine a une grande population européenne, notamment allemande. Et c'est pour ça que je considère que la psychanalyse est hautement génétique, parce qu'elle concerne, d'une façon générale, les germaniques. Ces problèmes psychologiques qu'on veut universels, on essaye de nous expliquer que Freud, c'est universel, le complexe d'Œdipe est universel. Il n'est pas universel. Il n'est pas universel, il est propre à une certaine population qui a ce type de problème au travers de son inconscient collectif ou de son subconscient collectif. Et l'un qui en parle le mieux, c'est Carl Jung. Le subconscient collectif européen n'est pas le subconscient collectif africain, chinois, indien. Les peuples ont des problèmes psychologiques collectifs complètement différents. Et la psychanalyse n'est pas une science universelle, la psychanalyse n'est pas un domaine universel, contrairement à ce que beaucoup voudraient nous faire croire, c'est une science autrichienne, allemande, qui ne s'applique qu'au peuple blanc du nord de l'Europe. Essayer d'expliquer la psychanalyse ou essayer de faire une thérapie à un chinois bouddhiste ne vous mènera absolument à rien. Il n'a pas les mêmes peurs, il n'a pas les mêmes angoisses. Et quand je dis peur et angoisse, c'est des angoisses transmises génétiquement. Vous savez que quand un caractère se répète, il finit par s'inscrire dans les gènes. Lorsque la peur, le manque, l'angoisse se répètent sur plusieurs générations, elle finit par s'inscrire dans les gènes. La peur du manque chez l'Européen, par exemple, est inscrite dans les gènes. C'est pour ça que l'Européen est beaucoup plus conquérant. Il a besoin d'exploiter d'autres territoires. C'est pour ça qu'il s'est projeté vers l'extérieur. C'est pour ça qu'il a eu recours à la colonisation. Parce que l'Européen est un accumulateur de richesses. Parce qu'il vit dans des territoires de manque. L'Africain ne sera jamais aussi conquérant parce qu'il vit dans des territoires d'abondance. Lorsque tu vois la forêt tropicale, t'as pas besoin de grand-chose pour y vivre. T'as des fruits partout, t'as tout qui pousse, t'as des animaux dans tous les sens. Tu peux vivre juste en faisant un peu de chasse sans grands efforts. Pour qu'un Européen passe l'hiver, t'as compris qu'il faudrait qu'il chasse pendant tout l'été, qu'il fasse des stocks, des provisions. Et l'angoisse arrive quand l'hiver arrive, parce que si tu n'as pas fait suffisamment de réserves, tu es condamné à la mort. Tu ne survivras pas aux 3 mois ou aux 4 mois d'hiver si tu n'as pas eu suffisamment de récoltes avant. C'est pour ça que l'Européen est un angoissé et l'Africain est plutôt un détendu. Tout ça trouve ses explications dans notre évolution. Et la recherche d'attention chez les femmes est aussi liée, est aussi un trait de l'évolution. Retirer l'attention à une femme et elle est virtuellement morte. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que les femmes ne peuvent pas survivre sans l'attention, elles n'ont pas pu survivre sans l'attention. Parce que qu'est-ce qu'une femme au final ? C'est un être extrêmement fragile qui sera encore plus fragilisé par la question de la maternité. Il n'y a rien de plus fragile qu'une mère, qu'une femme enceinte, parce qu'elle doit prendre soin d'elle-même et prendre soin de son petit. Pendant cette période de gestation, elle ne peut pas se battre, elle a besoin de beaucoup de nourriture. Et comment elle obtient cette nourriture ? Comment elle obtient cette nourriture, cette alimentation, cette richesse? Eh bien, elle ne l'obtient ou elle ne peut l'obtenir que par l'attention d'un homme. Un homme qui ne s'occupe pas d'une femme enceinte, cette femme est destinée à mourir. Même si aujourd'hui, on a oublié tout ça. Encore une fois, le système social s'est substitué aux hommes. C'est pour ça que les femmes aujourd'hui ont plus de facilité à divorcer, à se séparer des hommes, à dire « je n'ai pas besoin d'homme » ou « je suis indépendante ». Aucune femme n'est indépendante. La réalité, c'est qu'elles sont dépendantes du système social. Couper les APL, la CAF, toutes les aides qu'on peut avoir en France, il y a certainement les équivalents au Canada, en Belgique, en Suisse. Tout le monde développé a un système social plutôt généreux. Enlever ces aides aux femmes et on verra à quel point elles sont indépendantes. Mais avant l'avènement du système social, la survie d'une femme passait par la volonté d'un homme ou la volonté d'une tribu ou la volonté d'un groupe de s'occuper d'elle. Et pour qu'on s'occupe d'elle, il faut qu'on sache qu'elle existe, il faut qu'on sache qu'elle est là. Pourquoi les femmes se maquillent? Pourquoi les femmes s'apprêtent bien? C'est rare de voir une femme mal habillée. On voit beaucoup d'hommes mal habillés ou négligés, mais c'est rare de voir une femme mal habillée. Les femmes, en général, s'habillent bien. Même lorsque c'est pas cher, même lorsque c'est du H&M, du Zara, elles auront toujours le petit jean serré, le haut qui va bien, les couleurs sont associées, les chaussures, les talons, les talons dont l'origine trouve sa source dans la volonté d'avoir un cul bombé, hein, c'est à ça que ça sert les talons. Si vous vous demandez pourquoi les femmes portent des talons, c'est simplement pour accentuer la cambrure du corps et faire apparaître le cul plus gros qu'il ne l'est. Pourquoi elles font tout ça? J'ai déjà entendu des femmes dire « mais non, on fait ça pour nous-mêmes, on se maquille pour nous ». J'ai eu cet argument avec une gonzesse, je lui ai dit « mais pourquoi tu te maquilles si tu ne recherches pas l'attention ?» On avait ce même débat au sujet de l'évolution, parfois c'est vrai. J'avais en général, je m'étais mis la règle de ne jamais parler de ces choses-là avec les gonzesses. Je me suis dit « mais ne parle pas, surtout quand tu as envie de pécho, ne rentre pas en conflit ». Mais si vous voulez, j'ai dû pécher une ou deux fois. Je me suis lancé dans une discussion intello au sujet de l'évolution avec une gonzesse. Peut-être qu'inconsciemment, j'avais pas envie de la baiser. Je me suis saboté moi-même. Si tu veux, quand je commence à parler politique avec une gonzesse, tu sais que je suis en train de me saboter. Voilà, c'est inconscient. Mais quand je commence à parler de ces sujets-là, je sais que je suis en train de niquer l'ambiance parce que c'est des sujets qui ne s'apprêtent pas très bien à la sexualisation. Quand tu veux sexualiser une conversation, parle d'autre chose, parle de choses agréables, parle de voyages, fais un peu d'humour. Mais quand tu parles de choses sérieuses, tu désexualises immédiatement la conversation. Donc quand je le fais, je sais qu'inconsciemment, je suis en train de flinguer le date. Et ça m'est arrivé, voilà, personne n'est parfait. Et on parlait justement de l'évolution et de la volonté ou de la nécessité des femmes d'être visibles pour survivre. Et cette fille m'avait répondu « mais non, moi je me maquille, c'est pour moi, c'est pour mon propre plaisir, c'est pour me sentir bien ». Je lui ai répondu, mais si c'est pour toi, pourquoi tu te maquilles pas à la maison? Pourquoi tu ne mets pas de talons hauts à la maison quand t'es chez toi? Tu mets quoi? Tu mets ton pyjama rose et tes pantoufles. Sois honnête. Tu te mets à l'aise. Pyjama rose, pantoufles et tu pètes le pot de glace, tu te mets un Netflix et tu passes l'après-midi. C'est ça que tu fais quand t'es chez toi. T'es pas sur ton 31 avec les talons, le jean serré. Tu fais pas ça, tu fais pas la cuisine comme ça. Et quand j'ai dit ça, j'ai créé un petit bug dans sa tête. Elle a réalisé que oui, effectivement, lorsqu'elle était chez elle, elle ne se maquillait pas, elle mettait son pyjama et elle se regardait un Netflix. Et si vous avez compris ça, vous avez tout compris. Lorsque personne ne les regarde, les femmes ne prennent pas forcément soin d'elles. Ou elles font le minimum. Elles font vraiment le minimum, elles se nettoient la peau, elles prennent une douche, elles se mettent un peu de crème sur le corps. Oui, c'est vrai, elles aiment se sentir bien, elles aiment se sentir à l'aise. Elles sont extrêmement émotionnelles, extrêmement sensibles. Hein, donc elles sont sensibles à leur peau, à leur corps. Elles sont un peu plus... Les femmes sont plus animales, plus réceptives que les hommes d'une façon générale à ce genre de choses. Elles sont très sensibles au changement d'humeur, au changement de lumière, peut-être même au cycle lunaire. Hein. D'ailleurs, les règles des femmes sont aussi rythmées sur les calendriers lunaires. Donc, il y a une vraie connexion entre les femmes et les astres et la nature et l'univers, beaucoup plus que pour les hommes. Et elles ont besoin d'un niveau de confort supérieur à celui des hommes. Mais de là à se maquiller, à s'apprêter lorsqu'elles sont chez elles, elles ne le font pas. Donc, tu comprends bien que ce qui se cache derrière le maquillage, derrière les talons, derrière les vêtements, derrière les cheveux teints, etc., c'est la volonté d'être visible. C'est la volonté qu'on les voit, c'est la volonté qu'elles soient vues, aimées par un maximum de personnes. Et ça, c'est un trait qu'elles ont hérité de leur évolution, parce qu'une femme qui ne se faisait pas remarquer par un homme il y a 100 000 ans était destinée à mourir. Un homme qui ne te regarde pas, à qui tu ne plais pas, n'ira pas chasser pour toi, ne te protégera pas, ne te donnera pas un foyer, ne t'accueillera pas dans sa grotte ou dans sa tente. Il était impératif de se faire voir et de se mettre sous la protection d'un homme qui ensuite va continuer à la protéger lorsqu'elle aura des enfants. Il va la protéger d'abord en tant que partenaire, en tant que potentielle mère de ses enfants, et il va la protéger par la suite, même lorsque sa beauté va faner, il va continuer à la protéger et à la respecter, parce que c'est la mère de ses enfants. Et toute la survie chez les femmes passe par ça. Si vous avez compris ça, vous avez tout compris. Toute la survie chez les femmes, la survie d'une femme, passe par sa capacité à se faire remarquer. Et c'est comme ça depuis des millions d'années. Et Internet et Instagram n'a fait qu'accentuer ce phénomène. Quelque part, et c'est sur ça que je vais conclure, les réseaux sociaux et Instagram et TikTok et Facebook et tout le reste n'ont rien inventé. Ils ont simplement accentué des traits de l'évolution qui existaient déjà. Ils ont simplement accentué de manière exponentielle la recherche d'attention qui existait déjà chez les femmes. Et voilà pourquoi tous les outils, toutes les applications qui servent à se montrer, qui servent à s'exposer, qui servent à avoir de l'attention sont condamnés à réussir. C'est ça qu'avait compris Mark Zuckerberg et c'est ça qu'avait compris Facebook. Tous les outils qui servent à s'exposer, à se montrer, à avoir de l'attention sont des applications et des outils qui sont destinés à réussir. Pourquoi ? Parce qu'ils sont connectés, et c'est encore plus vrai chez les femmes que chez les hommes, à ce qu'il y a de plus profondément narcissique dans notre nature. Les réseaux sociaux, la recherche d'attention et le narcissisme qu'ils ont généré n'ont rien de nouveau. Ils n'ont fait qu'accentuer un trait génétique présent chez l'humain, présent chez la femme, chez la femelle, qui est à l'origine de la survie et de la reproduction. Tout ce que nous faisons, tous nos agissements, toute la psychologie humaine, toutes les interactions humaines n'ont qu'un seul but, quelle que soit la forme qu'elles pourront prendre, ce but, c'est la survie et la reproduction de notre espèce. Voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Et que dire d'autre? Eh bien, comme à mon habitude, prenez soin de vous et à très bientôt.